Vous êtes sur RTL.
Direction Washington, on fera la connexion en direct avec Brice Dugénie pour faire le point sur cette nouvelle Amérique qui se réveille. La RATP prévoit de faire décoller des taxis volants dans le ciel d'Île-de-France dès le mois de juin. Fantasme ou réalité, vous le saurez en écoutant On défait le monde. Le loser, le grand perdant de la semaine, et ce soir, Marie, comment une accumulation de petites négligences peut conduire à la grosse, grosse boulette?
Oui, un verre de vin chaud, une piste de ski et à l'arrivée, 5000 personnes confinées.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a disparu de la circulation. Et Laurent, vous avez réussi à retrouver un héros des temps modernes.
Mamoudou Gassama, l'homme qui avait escaladé un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans.
D'ici 20h, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou rêve, on prendra des nouvelles d'Alexandre qui était venu nous raconter son projet de changement de vie. Où en est-il 6 mois plus tard? Et évidemment, le cadeau. Alors ce soir, c'est un cadeau très made in USA. Je garde la surprise, mais ça va donner du relief à vos soirées devant un bon film à la maison. Le jeu, ce sera vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 21.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure.
2021, nous voilà. On défait le monde dans RTL Soir.
Je dis à Greg que je lui ai piqué son petit jingle. J'ai ouvert la tranche dimanche matin dernier à 7h avec ça.
C'est la consécration. Pardon. C'est la consécration.
Ah ouais, c'est un honneur, au contraire.
Il y a des droits ou pas? Je dois quelque chose?
Non, 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 on vous l'offre.
Et il nous régale tous les matins à 6h40 et juste avant
8h.
Pour
une fois qu'on lui pique une idée.
Il surfe.
Ça peut pas vous arriver, ça, Brice, hein.
C'est le surf de la semaine avec Cyprien et c'est parti.
Et encore une semaine sur la brèche, pleine de breaking news et d'alerte info à gogo. Les États-Unis happés par l'investiture de Joe Biden. Bon, après, nous aussi en France, on a nos alertes info, nos breaking news à nous, pas de jalousie, nos priorités au direct made in France.
Breaking news.
Tiens, mon image en direct de Rueil-Malmaison, où Lynn Renault vient tout juste de se faire vacciner.
Et nous, on a la vaccination en direct live de Lynn Renault à la télé. Vive la France! Sinon, un bien beau malaise cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous le savez, Gérald Darmanin fait l'objet d'une accusation de viol. Et en commission cette semaine, pour parler séparatisme, pour lui demander de parler plus fort dans le micro, François de Rugy n'a pas vraiment choisi les bons mots. Écoutez.
Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Il faut bien, c'est comme le consentement, il faut bien exprimer l'avis, monsieur le ministre.
Vous sentez le malaise, là? Et là, François, il sort les rames. Enfin, là, c'est même plus des rames.
Vous qui avez été maire, vous savez qu'il faut qu'on entende clairement oui. Et bien là, il faut qu'on entende clairement si l'avis est favorable ou défavorable. Merci, monsieur le rapporteur.
C'est bien. Bon, vaut mieux s'arrêter là. Pendant ce temps-là, le sémillant Jack Lang nous a offert la blague de la semaine. Oui, interrogé sur ce que l'on appelle communément le petit milieu parisien, l'entre-soi qui réunit parfois journalistes et politiques, les mondanités de salon, tout ça quoi. Jack nous a régalé. Plus c'est gros, plus ça passe.
Je vis en dehors de tout ça et je ne participe pas des mondanités qui me sont totalement étrangères.
Ah oui. S'il y a bien qui est pas mondain, c'est Jack, évidemment. Un ermite, Jack Lang. Après, c'est vrai que parfois, entre les politiques et le reste du monde, on perçoit pas toujours les choses de la même façon. Prenez Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Bon, mi-novembre, sur la vaccination obligatoire, elle disait sur BFM...
La vaccination contre le coronavirus obligatoire, ça me paraîtrait effectivement nécessaire, mais favorable.
Nécessaire, favorable, bon ça paraît clair, mais depuis, elle a changé d'avis, elle a le droit après tout. Mais quand sur BFM, on lui fait remarquer qu'elle a changé d'avis, elle explique que non, pas du tout.
En fait, je m'étais mal exprimée.
Ah, en fait, elle s'était mal exprimée, elle a pas du tout changé d'avis.
Ce que je voulais dire, c'était obligatoirement proposé à tout le monde.
Ah, obligatoirement proposé à tout le monde, voilà ce qu'elle voulait dire. Au lieu de dire obligatoirement proposé à tout le monde, à l'époque, elle a donc dit...
La vaccination contre le coronavirus, obligatoire, ça me paraîtrait effectivement nécessaire, mais favorable.
Voilà, donc obligatoirement proposé à tout le monde, ça devient ça. Ça marche quand même bizarrement dans le cerveau de Valérie Pécresse. Bon, après, elle aussi, elle a une bonne raison.
Vous savez que le matin, quelquefois, on s'emporte et on parle plus vite.
Ouais, voilà, c'est la faute du matin. Allez, vivement la semaine prochaine et à lundi matin, Valérie Pécresse.
Surfeur Cyprien Cini, quel bonheur, 19h21.
On défait le monde sur RTL.
Je passe à la grosse info et donc direction les États-Unis.
19h21 en France, bientôt 22. 13h22 à Washington, je fais l'horloge parlante. On le retrouve, notre grand reporter du service étranger, Brice Dugénie. Good evening, Brice.
Good evening, good afternoon pour moi. Ouais,
et good evening pour
bonjour à tous, bonsoir.
Alors, toute la semaine, vous nous avez fait vivre toute l'actualité américaine, mais on a quand même envie de vous poser une question. C'était comment cette cérémonie quand on était là-bas?
Bah pour moi, c'était un peu lointain. En fait, disons que pour être honnête, je l'ai vu en replay en rentrant à l'hôtel. Parce que pendant la cérémonie, pour des raisons sanitaires d'abord, sécuritaires aussi, j'étais à environ 300 mètres du Capitole, vous savez, derrière ces immenses barrières, les cordons de policiers, de militaires. Mais je me trouvais avec des habitants de la ville, de Washington, qui étaient quand même venus. Alors, ils regardaient la cérémonie sur leur téléphone, moi aussi. Et on voyait rien, on n'entendait rien, mais il y avait une ambiance. Vous avez une espèce de. On sait qu'on est au plus près d'eux, mais on n'y est pas vraiment. Et les gens le ressentaient. Donc, il y avait une ambiance assez sympa et c'est ce qu'on a pu décrire et les témoignages des Américains étaient assez forts.
Ouais, ça reste quand même surréaliste comme ambiance. Donc là, le président est au travail, hein, on l'a vu, et la priorité, c'est la lutte contre le Covid.
Ah oui, dès hier, Joe Biden, dès le premier jour de sa présidence, il a présenté son plan contre la pandémie. C'est un dossier très épais, hein, il l'a montré aux caméras, 198 pages. Joe Biden passe à l'action, pas de temps à perdre, dit-il, et il a décidé de rendre le masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux et dans les transports entre États, les trains, les avions et les bus.
Mais alors, Brice, là, vous nous parlez de transports entre États, de bâtiments fédéraux, mais pourquoi il ne fait pas directement sur tout le territoire, comme en France ?
Eh bien, parce que Joe Biden, il n'en a pas le pouvoir. Le système américain, vous savez, c'est un système fédéral, avec des États, donc par exemple la Californie, l'Ohio, le Massachusetts, qui sont très forts et qui sont souverains dans beaucoup de domaines. Et contrairement à la France, eh ben, le président américain, il ne peut pas dire à partir de demain, tout le monde portera un masque dans la rue, couvre-feu, fermeture des magasins ou des restaurants. Non, tout ça, c'est de la compétence des États, donc des gouverneurs. Chacun fait un peu ce qu'il veut et ça dépend même parfois des maires des villes. Et donc Joe Biden, il ne peut pas les obliger.
Donc là, on est d'accord, Brice, il y a plus de 400 000 morts, le masque n'est pas obligatoire, les restos sont toujours ouverts.
Alors oui, ça varie d'un état à l'autre, mais absolument, le masque, il n'est pas obligatoire dans beaucoup d'états, c'est simplement une recommandation. Il y a des états où il est obligatoire, mais seulement à l'intérieur, et pour les restaurants, vous avez raison, c'est exactement pareil. Je vous donne 2-3 exemples. À Washington, où je me trouve, ils sont ouverts. Jusqu'à ce matin, ils n'avaient le droit de servir qu'en terrasse à l'extérieur. Et puis, il y a une décision assez surprenante qui a été prise par la maire de la ville de Washington. Ils ont à nouveau l'autorisation de servir à l'intérieur sur 25% de la surface de l'établissement. La décision a un peu surpris les Américains, surtout quand on sait que la pandémie est quasiment au pire. Dans l'état de Virginie voisin, les tables sont très espacées, mais vous pouvez manger à l'intérieur. Il y a même des restaurants où vous vous servez vous-même. J'ai vu des gens plonger leurs mains dans des pots de cookies. C'était quand même assez étonnant. Il y a un dernier exemple, c'est le Maryland, pareil, en état voisin. Vous pouvez aussi manger à l'intérieur. Le masque est recommandé, mais personne ne le porte parce que ce sont des comtés, enfin c'est un état dans lequel il y a des comtés, vous savez, c'est l'équivalent de communes, qui ont beaucoup voté pour Donald Trump, donc il y a pas mal de gens qui sont réticents. Sur les 40 clients du bar-restaurant où je me suis rendu, aucun ne portait le masque, aucune distance sociale. Et puis dernier exemple, New York. New York, c'est uniquement en terrasse ou à emporter, rien à l'intérieur. Il vaut mieux d'ailleurs que la terrasse soit chauffée parce qu'en ce moment il fait très très froid ici dans le nord des États-Unis.
Et dans ce contexte, comment il va faire donc Joe Biden pour réussir à imposer des règles plus strictes?
Ah ben, il a une stratégie qui est d'abord de montrer l'exemple. C'est-à-dire que Joe Biden, il porte un masque et toute son équipe aussi en permanence. Ça, c'est une vraie rupture avec Donald Trump. Il en porte même parfois deux l'un sur l'autre. Et puis surtout, il va, dit-il, convaincre les Américains et notamment les électeurs de Trump. Vous savez, qui sont un peu réticents, mais qui sont aussi très patriotes. Et donc hier, face à la caméra, un masque à la main, voilà ce que Joe Biden leur a dit.
One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up. It's a patriotic act.
This is a patriotic act. Porter un masque, c'est un acte patriotique, il leur dit. En fait, porter ce masque pendant 100 jours, et selon une estimation, ça devrait permettre d'épargner 50 000 vies d'Américains. Voilà ce qu'il dit aux électeurs de Trump. Et il va même plus loin. Il leur dit, je vous dirai tout, je ne vous cacherai rien. Et il ajoute, ce n'est pas moi qui vous tiendrai informé, ce sont les scientifiques. Joe Biden remet la science plutôt que la politique au milieu justement du traitement du coronavirus et de son plan contre le Covid-19. Et c'est là qu'il marque sa différence, rétablir la confiance et la transparence pour faire adhérer justement le plus grand nombre d'Américains.
Et Brice, avant de terminer rapidement, on voulait faire aussi un petit rectificatif cette semaine, hein?
Oui, absolument. Ouais. La semaine dernière, on vous a dit que Donald Trump était le premier président américain à rater, à ne pas vouloir se rendre à la cérémonie d'investiture de son successeur. En fait, c'est arrivé 3 fois au 19e siècle. Donc, on s'est trompé. Je me suis trompé. Et puis, en 74 aussi, même si c'est un peu particulier, Nixon, qui venait de démissionner, n'a pas pu non plus assister à la cérémonie de son successeur. Quand on démissionne, on s'en va et on se retourne pas.
Bon, merci, Brice. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez voir la Maison-Blanche? Parce qu'il paraît que vous avez même pas eu le temps d'aller voir la Maison-Blanche depuis que vous y êtes là.
Alors, d'abord, j'ai pas eu le temps, et en plus, pour être sincère, je l'ai pas vu parce qu'avec les barrières et la sécurité qu'il y avait ces derniers jours, c'était impossible de la voir. J'essaye d'aller la voir, je vous tiens au courant. Ils étaient en train de démonter les barrières dans la nuit, donc j'espère que je pourrai au moins l'entreapercevoir.
C'est votre challenge d'ici la fin de l'émission.
Et puis on va retrouver le challenge du grand reporter.
Ça, c'est du reportage, ça.
Et vous oublierez pas le cadeau, hein, pour le retour en France, pour les auditeurs.
Absolument, absolument. Ah. J'ai déjà une petite idée, mais je veux rien dévoiler parce que je sais pas si le magasin est ouvert.
La première info pour briller au dîner dans Défait le Monde, c'est juste après ça. Il est 19h27.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La première de ce soir, c'est avec Marie, on va au musée Grévin.
Et oui, vous savez sans doute que la statue de Donald Trump du musée Grévin a été déboulonnée cette semaine, mise au rebut. C'est la tradition quand un président quitte ses fonctions. Mais saviez-vous que d'autres statues de cire ont été la cible de kidnapping dans le passé ? 1980, un mystérieux gang pénètre dans le musée en plein jour et enlève le double de Georges Marchais, leader communiste, comme on l'entend à l'époque sur France Inter.
Un rapt très particulier cet après-midi à Paris. Georges Marchais a été enlevé. Pas le vrai Georges Marchais, rassurez-vous, mais son effigie en cire qui était exposée à tout seigneur tout honneur au musée Grévin. Le rapt a été revendiqué par une organisation s'intitulant Groupe d'intervention nationaliste.
Alors la statue sera retrouvée quelques jours plus tard, abandonnée aux eaux de Vincennes dans la fosse aux ours bruns. 3 ans plus tard, la statue de Jacques Chirac est à son tour kidnappée. Même gang, même méthode. Leur butin sera déposé aux eaux, encore cette fois contre une volière à perruche. Pourquoi? Mystère. Des enquêtes ont bien été menées. La police ne les a jamais retrouvées.
J'adore l'info pour briller au dîner, signé Marie Mollet ce soir, 19h31.
Allume la lumière
dans Défait le Monde quand un expert nous éclaire sur une actualité.
Et cette semaine, il y a quand même une info qui nous a limite fait tomber de l'armoire. Des taxis volants vont décoller de l'aéroport de Pontoise en région parisienne dès le mois de juin prochain. Ce sera d'abord des vols expérimentaux, mais la RATP et Aéroports de Paris ont d'ores et déjà sélectionné 30 partenaires pour lancer l'aventure. Demain, tous en voiture volante, ça paraît tellement fou qu'on a voulu en savoir plus sur le sujet. Bonsoir Laurent Meillot.
Bonsoir.
Alors vous êtes expert des technologies automobiles. Dites-nous vraiment, ces taxis volants là en expérimentation dès le mois de juin, c'est une avancée significative ou c'est un peu pour amuser la galerie et nous faire rêver?
J'ai envie de dire que c'est un petit peu l'alternative à l'hélicoptère. Ça sera surtout un transport pour les personnes fortunées, on va dire. Il faut pas croire que demain on va pouvoir voler et puis échapper aux embouteillages, surtout en région parisienne. Ça sera vraiment, je pense, un transport d'appoint, mais un transport écologique, puisqu'effectivement ce seront des taxis volants électriques. Et ce qui est visé, en fait, c'est desservir la capitale au moment des Jeux Olympiques de 2024 et pourquoi pas proposer des liaisons commerciales à l'horizon 2030.
C'est-à-dire qu'en gros, n'importe quoi, de riches hommes d'affaires atterrissent au Bourget et vont se poser sur un gratte-ciel de la Défense en voiture volante taxi.
Exactement, donc avec un engin à décollage et atterrissage vertical. Et d'après le cabinet Oliver Wyman, d'ici 2035, il y aurait entre 40 000 et 60 000 taxis volants dans près de 90 villes à travers le monde.
Et est-ce que le ciel au-dessus de nos villes, ça risque pas de devenir très compliqué à gérer? Parce que vous parlez de 40 000, 50 000 taxis volants.
Alors je le disais, ça dépend vraiment des endroits à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace aérien est très réglementé. On le voit bien d'ailleurs avec les drones, on peut pas faire n'importe quoi par exemple, on peut pas survoler des centrales nucléaires, évidemment on peut pas survoler l'Elysée non plus par exemple. D'ailleurs le survol de Paris, de façon générale, de toute façon est interdit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces engins qui pourront voler, il faut déjà qu'ils aient une autorisation, une certification, donc il y a des autorités au niveau européen, français ou américain qui délivrent des permis, des certifications. Donc c'est pas monsieur tout le monde qui pourra effectivement voler dans le ciel de Paris ou ailleurs. Encore une fois, on n'est pas dans le cinquième élément, mais par contre, ça sera sans doute des pilotes pro ou en tout cas des compagnies de transport qui opéreront donc des vols pour certainement plutôt des businessmen ou des artistes, bien sûr, mais dans des conditions de sécurité. Sachant que ce qu'il faut dire également, c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie reste quand même très limitée, c'est de l'ordre d'une centaine de kilomètres, donc il faut quand même que d'ici là, les batteries fassent leurs preuves. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on aura peut-être plus des propulsions électriques avec le concours de l'hydrogène, par exemple.
Et en termes de prix, est-ce qu'on peut déjà modéliser ou avoir une vague idée du prix?
Le prix de la course, quoi.
Oui, le prix de la course, exactement.
Oui, alors ça a été calculé. Alors, ça serait a priori moins cher que l'hélicoptère, puisqu'en fait, selon les études que j'ai pu lire, le coût d'une course pourrait être compris entre 30 et 60 euros, par exemple.
Ah, c'est pas cher.
Pour une petite distance, évidemment. Ouais. Néanmoins, ce qu'on peut quand même considérer, c'est qu'il y a des grands acteurs qui se positionnent. Alors, à une époque, c'était plutôt Uber qui voulait faire ça, mais il y a quand même des constructeurs qui se positionnent. Cadillac, dernièrement, ou de General Motors, qui a montré quelque chose à Las Vegas. Hyundai. Aston Martin, Porsche, Mercedes. C'est assez marrant quand même de voir que les marques qui font des voitures s'associent avec des compagnies de transport aérien. Par exemple, Audi avec Airbus, Porsche avec Boeing. Donc, même si ça reste pour l'instant de la maquette ou du concept, parce que malgré tout, il y a quand même des engins qui volent, on est quand même qu'aux prémices de ce futur marché.
En gros, ça veut dire que même si les technologies permettent de le faire, il va y avoir toute une loi et toute une organisation à créer, et ça, c'est pas demain la veille, quoi.
Oui, alors effectivement, il faut voir ça comme étant un transport d'appoint, un transport alternatif. Alors après, il peut aussi y avoir des cas d'application, pourquoi pas pour les services d'urgence. On peut imaginer que pour le SAMU, ça pourrait être intéressant, par exemple. Mais encore une fois, pour monsieur, madame, tout le monde, on a plus de chances, si on vit en Nouvelle-Zélande, par exemple, de s'acheter un petit avion pour pouvoir surveiller son champ de moutons. Mais échapper, hélas, au bouchon du périph' en s'envolant, c'est pas tout à fait pour demain la veille.
Bah en tout cas, on n'est pas prêt d'aller venir bosser en taxi volant. Mais merci d'avoir allumé la lumière sur le sujet quand même. Hein. Je rappelle que vous êtes expert des technologies automobiles, Laurent Maillot. Merci.
Merci.
19h35 et évidemment, On défait le monde continue.
À suivre dans On défait le monde.
Une nouvelle info pour briller. Le loser de la semaine et bien sûr... le cadeau.
Ah, et puis j'ai envie de vous donner un indice, tenez. Écoutez ce qui suit.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Une info pour briller au dîner, pour apprendre des choses, Cyprien. Vous nous parlez d'histoire, vous, non ?
Oui, j'adore l'histoire. C'est l'image qui a fait le tour du monde. Joe Biden prétend serment sur la Bible. Et là, on se dit qu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Et pourtant... si, c'est même le premier amendement de la Constitution qu'il dit et qu'il garantit. Et d'ailleurs, quand on lit toute la Constitution américaine dans le détail, ce que j'ai fait, à aucun moment il n'est écrit que le président élu doit prêter serment sur la Bible. C'est jamais écrit. En fait, c'est juste une habitude. C'est fait par mimétisme. Le premier à avoir lancé la mode, c'est George Washington, premier président des États-Unis en 1789. Mais il y a quand même quelques présidents qui ont dérogé à la coutume. John Quincy Adams en 1825, il avait choisi un livre de droit. Theodore Roosevelt, lui, en 1901, il avait choisi de le la main droite en prêtant serment sur rien du tout, il n'avait pas pris de bouquin. Alors que Lyndon Johnson, qui succéda à Kennedy dans la précipitation en prêtant serment vite fait dans Air Force One, a pris le premier livre de prière qu'il a trouvé dans l'avion pour ne pas perdre de temps.
Info pour envoyer au dîner, signé Cyprien. Washington est toujours connecté. Brice Jeuny, le grand reporter là.
Oui, je suis là. Vous m'entendez ?
Il en est où ? Il se rapproche ou pas de la Maison Blanche ?
Oui, je me rapproche, mais je vous avais dit que toutes les barrières avaient été retirées dans la nuit. Je me suis un peu avancé. Ils en ont retiré beaucoup, mais ils n'ont pas tout retiré. Donc je l'aperçois de loin. Là, je dois être à 500 mètres derrière les arbres. Je vais essayer de m'approcher, mais c'est pas gagner.
Ah, vous pensez qu'on vous laissera pas passer encore ? C'est encore protégé comme...
Non, alors ça, les barrières, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr qu'on ne laissera pas passer, les barrières, mais peut-être qu'à un autre endroit, il y aura un accès. Mais ces barrières-là, je vais même pas essayer, Cyprien, c'est pas la peine.
Allez, on va retrouver très très vite.
Bon courage.
Il est 19h39.
On aura peut-être un deuxième loser de la semaine, du coup.
Oui, c'est ça.
Le loser de la semaine.
Oh, quelle transition, le moment de l'émission qui nous rappelle à quel point la frontière entre le bien et le mal est ténue. Place au loser, au grand perdant de la semaine, et ce soir, Marie, c'est une vraie championne de la loose que vous nous avez dégotée. Hein.
Oui, une vacancière belge qui avait besoin d'un grand bol d'air frais, de prendre le large, de tout envoyer valser. Alors elle s'est offert une escapade au ski, nous raconte la RTS.
Elle est venue passer une semaine chez nous, en Suisse, et elle a chopé le variant britannique du Covid. Sauf qu'elle l'a pas su tout de suite.
Eh oui, elle ne l'a pas su tout de suite. Alors à son retour, madame n'a pas respecté l'isolement de 7 jours obligatoire en Belgique après une virée à l'étranger. Une petite entorse au règlement qui aurait dû passer inaperçue. Sauf que voilà.
Elle va croiser sa fille qui retourne à l'école et contamine un camarade de classe qui contamine à son tour sa maman, professeure dans une autre école située à 5 km d'Edegem. Résultat, 5000 personnes en quarantaine. Oh.
5000 personnes en quarantaine pour un verre de vin chaud, c'est un peu cher payé. D'autant que le ministre de la Santé belge avait prévenu avant les vacances.
L'idée de voyager maintenant est vraiment une très mauvaise idée. Que les vacances doivent aider à casser cette vague, faire office d'un brise-lames.
Résultat, 5000 personnes en quarantaine.
Tant pis pour l'effet brise-lame. Alors on a une pensée pour cette skieuse dont les relations de voisinage doivent être un peu crispées ces derniers jours.
Et à l'origine de ce branle-bas de combat, il y a une personne, une seule.
La RTBF a posé la question au bourgmestre, le maire de la ville. Au fond, faut-il vraiment la blâmer ?
Elle est coupable. Donc c'est vrai. Elle le sait très très bien parce que cette erreur a impacté milliers de personnes. Mais c'est le système aussi qui a des manquements. Ça, c'est clair.
le système de prévention qui a aussi des lacunes. Il est indulgent, hein, ce bourgmestre. Hein.
Ouais. Bon, après, on va pas trop accabler cette mère de famille et nos amis belges, parce que les Français aussi, eh ben, on n'est pas en reste. Hein.
Oui, avec cette affaire qui a scandalisé le Portugal et a fait la une des JT. Une famille de Français qui est venue passer Noël dans un petit village reculé à l'est de Porto, un havre totalement épargné par la Covid et dont l'unique café-restaurant est ouvert. Sur place, rapporte un journal national, ils mangent, boivent, font cuire un cochon de lait à la broche, joue aux cartes avec les habitants. Bref, ils passent du bon temps, sauf qu'ils tombent tous malades, toute cette famille, symptômes du Covid. Paniquée, la famille fait ses valises et prend la fuite. Retour Fissa en France pour échapper aux autorités et à la quarantaine obligatoire.
Il a pris l'option départ avec panache. Il a pris une décision qui est courageuse parce qu'il s'est beaucoup engagé.
Oui, du panache avec ce départ. Hein, après leur passage, la moitié du village était contaminé.
Oh là là, la belle histoire encore.
Que des champions.
Titre de loser de la semaine, 19h42. On a un cadeau pour les auditeurs dans Défait le Monde.
Ah, c'est l'instant. Plaisir d'offrir, joie de recevoir avec...
De Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, réalisateur et distributeur de bonheur. Bon alors, vous avez voulu que je garde la surprise toute l'émission, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir?
Le cinéma vous manque?
Oui.
Alors imaginez, un bon film, oui, devant un écran immense, en totale immersion avec un son Dolby Surround. Tout ça en mangeant du popcorn, et bien tenez-vous bien, ce soir, on vous offre de quoi faire une soirée ciné exceptionnelle, sans sortir de chez vous, grâce à cette super machine à pop-corn. Eh oui, préparez du pop-corn salé ou sucré chez vous grâce à cette machine à pop-corn Poppy de Lagrange. Alors, je dis ciné, bien sûr, mais ça peut être télé, hein, en regardant, je sais pas, Paris Première, M6 ou pourquoi pas W9. En attendant, si vous voulez avoir un peu le pop-corn à la bouche, vous pouvez aller jeter un œil sur le site lagrange.fr.
Eh ben, vive le pop-corn. La fameuse question dont défait le monde pour gagner la machine à pop-corn, cadeau américain, question américaine. On en a parlé en début d'émission. Sur quel livre Joe Biden a-t-il prêté serment au moment de son investiture? Est-ce que c'était le livre de la jungle? Est-ce que c'était la Bible? Ou est-ce que c'était le dernier livre de Christophe Barbier, qu'on appelle aussi Christophe Barber?
Christophe Barber.
Vous avez la bonne réponse, 32-10. On tirera au sort parmi les bonnes réponses et on passera un petit coup de fil à l'heureux vainqueur de la machine à popcorn.
Absolument, 3-2-1-0, c'est parti, top départ, le standard est accessible.
On défait le monde sur RTL.
19h44, c'est le billet retour, c'est le droit de suite dont défait le monde quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a un petit peu disparu, Cyprien, de l'actualité.
Et ce soir, un héros des temps modernes. Souvenez-vous, 26 mai 2018, Paris, 18e arrondissement.
L'image nous a tous interpellés ce week-end, celle de ce jeune sans-papier malien qui a sauvé un enfant.
D'un enfant suspendu au balcon d'un immeuble de plusieurs étages.
Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue.
Mamoudou Gassama.
Devenu un héros.
Oui, Mamoudou Gassama, vous vous en rappelez forcément, un enfant suspendu dans le vide à son balcon, et ce garçon qui escalade la façade de 4 étages pour le sauver. Des images qui, à l'époque, avaient fait mais le tour du monde.
And we have amazing video to show you of a rescue in Paris.
A migrant from Mali has been hailed a hero.
O imigrante que está sendo considerado herói nacional.
He's been called a Spider-Man of the 18th.
Le Spider-Man du 18e reçu à l'Élysée avec les honneurs, Emmanuel Macron qui lui a donné la nationalité française. Et depuis, Laurent, on n'avait plus de nouvelles, du coup, cette semaine, vous êtes mis en quête de le retrouver, résultat.
Mission accomplie.
Bravo.
Voilà, il vit toujours à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, non plus dans un foyer, mais dans un appartement. Mamoudou Gassama a réalisé un service civique à partir de décembre 2018 à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Alors, il a reçu des formations théoriques et pratiques. Aujourd'hui, il reconnaît avoir eu du mal à supporter toute cette médiatisation.
Après les sauvetages, vraiment, c'était difficile, en fait. Avec les pompiers, j'ai resté là-bas pendant 10 mois. Après ça, j'ai fait que les cours des Français. Toujours, je continue avec les cours des Français.
Une mission avec les sapeurs-pompiers de Paris qui aura duré jusqu'en septembre 2019. Il pense toujours à réintégrer la brigade, hein. C'est son idée. Mais vous l'avez entendu il y a quelques instants, une surmédiatisation difficile à gérer pour lui et son frère Diagbi, hein, qui l'accompagne au quotidien, comme l'a confié leur manager, Mia.
Ils se sont mis en retrait depuis tout ça, depuis les événements, hein, parce qu'il y a eu le service civique, il y a eu pas mal de rencontres. Et ça allait tellement vite qu'il avait besoin de prendre un peu de recul, donc c'était pour ça qu'il n'était pas accessible.
Et vous l'avez dit, Cyprien, Mamoudou Gassama s'est fait connaître dans le monde entier. Rencontre avec le président du Mali et récompense obtenue aux États-Unis pour son courage.
à Los Angeles. J'ai juste un trophée de l'homme de l'année.
Récompense obtenue lors d'une cérémonie qui honore chaque année des personnalités noires. Et aujourd'hui, Mamoudou Gassama s'est lié d'amitié avec Lassana Batili, l'ex-employé et héros de l'hypercacher qui avait aidé des otages à se cacher lors des attentats de janvier 2015.
Lassana Batili, j'ai entendu son nom avant que j'arrive en France. Un ami qui m'a parlé, Lassana Batili, donc je lui demande, il me donne son numéro pour qu'il me donne le conseil. On a commencé à parler, on s'est fréquenté aussi. Je le connais très bien parce qu'on a fait un voyage ensemble au Sénégal.
Ouais, les deux hommes échangent régulièrement aujourd'hui. Son frère Diaby est à ses côtés pour l'encadrer, le conseiller. Et on continue de lui parler de son acte héroïque. On lui demande encore des photos.
Et maintenant, Laurent, comment il voit son avenir?
Alors, Mamoudou Gassama travaille depuis le mois de décembre avec Mia, leur manager. Pendant plusieurs mois, il n'avait vraiment aucune équipe derrière lui pour gérer les demandes de partenariat, de placement de produits. Il continue encore à être très demandé et il nous révèle sa prochaine actualité.
Je travaille sur mon projet entre 2020 et 2021 sur mon film.
Oui, un film à venir, tout a démarré au mois de décembre. Son manager Mia nous en dit un peu plus.
Il y a un producteur américain, bon, je ne pourrais pas dire le nom malheureusement, qui nous a fait une offre pour son film. Donc là, ça fait 2 mois qu'on travaille avec lui. Le scénario est en cours, on a des réalisateurs français. Ça va être tourné entre la France et le Mali. Et si tout se passe bien avec la situation sanitaire, c'est pour 2022.
Un film qui racontera la vie de Mamoudou Gassama avant, pendant et après le sauvetage du 26 mai 2018. Alors, il ne jouera pas son propre rôle. Un acteur est prévu, aucun nom n'est donné pour le moment, mais les projets ne s'arrêtent pas là.
Il y a un livre, il n'est pas encore sorti. C'est vrai que pour l'instant, il y a tellement de projets. On s'est arrêté, nous, sur le film. Et il y a d'autres choses qui vont se passer bientôt à la télévision française. Mais le livre, il arrive juste après le film.
Ouais, mais en attendant, le film, le cinéma, le livre, Mamoudou Gassama a d'autres objectifs.
Actuellement, il est en train de passer son permis. Il apprend l'anglais. Donc c'est vraiment... Il continue d'apprendre pour se développer.
Ouais, des projets en nombre, une vie qui aura définitivement changé après avoir escaladé le 26 mai 2018 cet immeuble parisien pour sauver la vie d'un enfant de 4 ans.
Et voilà les nouvelles grâce à Laurent Tessier dans Défait le Monde pour ce billet retour. Restez bien là, 19h48. La troisième info pour briller au dîner, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Direction Washington, donc on retrouve notre grand reporter. Il l'a trouvé la Maison Blanche ou pas?
Oui, je l'ai trouvé, je suis en face. Alors quand je dis en face, je vous dis pas la distance qui me sépare de la façade, mais je suis en face. Il y a à peu près 300-400 mètres.
Et on peut dire à nos auditeurs, vous nous avez envoyé une photo, en fait les barrières... C'est pas les mêmes que chez nous, les barrières. C'est des murs.
Ah non, non, les barrières, elles font 3 mètres de haut. Il y en avait partout dans la ville. Il y a des blocs de béton. Il y a des 4x4 en travers. Non, c'est sérieux. Hein.
Ouais, c'est le mur de Berlin.
C'était pas une plaisanterie quand je disais que je l'ai pas.
Oh ouais, c'était bien cette info pour envoyer au dîner. Merci Brice, à bientôt. En blague, vous nous parlez des moufles de Bernie Sanders, vous.
Oui, Bernie Sanders, pardon pour le bruit autour, il y a des gros camions aussi. Hein. Oui, Bernie Sanders, vous savez, c'est ce sénateur démocrate qui était candidat à la primaire d'ailleurs face à Joe Biden. Il est venu cette semaine à la cérémonie d'investiture et alors il y a une photo de lui qui est devenue célèbre en quelques minutes. Il est recroquevillé sur sa chaise et aux mains. Il a une paire de moufles en laine, mais une laine vraiment très épaisse, marron et crème. Et les moufles ont fait sensation. Alors, cette paire de moufles, elle a été tricotée par une femme du Vermont. Le Vermont, c'est un état où il fait très froid. Et c'est l'état dont est originaire Bernie Sanders. Et cette femme, elle s'appelle Jane Ellis. Elle est professeure et elle les a tricotées pour Bernie Sanders. Et depuis la cérémonie, elle est assaillie de demandes par mail, par téléphone, par SMS. En fait, tout le monde veut les mêmes moufles que Bernie Sanders. Elle l'a raconté à nos confrères de NPR, la radio américaine. Écoutez.
They've definitely been crazy. My Gmail account has completely filled up. I'm still a
pop. Voilà, elle explique que c'est dingue, que sa boîte mail a explosé sous les demandes. Mais elle explique qu'elle aime son métier de professeur, qu'elle est mère de famille et qu'elle n'a pas le temps et qu'elle n'a pas envie de changer de business et de se lancer dans le business des moufles. Et même le magazine Vogue l'a cité en exemple. Mais Jane Ellis restera donc professeure dans le Vermont et elle continuera à tricoter, mais uniquement pour ses amis.
Ah, c'est formidable. Merci Brice depuis Washington. Troisième info pour briller au dîner. 19h52. Marche ou rêve quand on met en valeur vos initiatives, vos projets.
Et vous venez de nous en parler à l'antenne. Et puis parfois, on prend des nouvelles pour savoir comment ça a évolué. Ce soir, Laurent, on a voulu savoir comment ça se passait pour Alexandre. Alexandre, on l'avait eu avec nous fin août et il faisait quelque chose que beaucoup d'entre nous auraient rêve de faire, il était en plein changement de vie.
Et à 32 ans, il a lancé sa propre activité après avoir été charpentier métallique. Le jeune homme a monté son épicerie ambulante, la Casa d'Épi. Une idée qui lui est venue après le premier confinement. Des produits frais, locaux, de première nécessité. Et une solution pour lutter contre la désertification des commerces en milieu rural. Ces tournées ont démarré le 31 août dans une trentaine de communes autour d'Alençon. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
Alors comment ça se passe pour vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'activité s'est arrêtée.
Pour quelle raison?
On va dire que le deuxième confinement fait que la clientèle soit moins importante. Et même en rajoutant des communes, j'aurais pu m'en sortir avec de nouvelles communes, comme ce qui était prévu. Mais j'ai une offre d'emploi qui est arrivée comme ça, donc que je pouvais pas refuser. Du coup, j'ai décidé de mettre un terme à la Casa d'Épi.
C'est compliqué, le changement de vie. Vous avez trouvé que c'était plus dur que ce que vous pensiez ou pas? En termes d'aide, d'appui?
Ouais, ça a été vachement plus dur que ce que je pensais, parce que je pensais que les communes auraient joué le jeu plus que ça. Et parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui demandent qu'on les aide, qu'on leur apporte un service. Mais je vois que les communes ne répondent pas à l'appel.
Et aujourd'hui, que faites-vous, Alexandre ?
Donc aujourd'hui, je travaille dans un magasin de mobilité, donc tout ce qui est trottinette électrique, vélo électrique, et donc sur Alençon.
C'est un vrai virage, un vrai changement.
C'est ça, j'ai rechangé de métier encore une fois.
Et est-ce que derrière tout ça, vous êtes un peu déçu d'avoir quelque part échoué avec l'histoire de...
Non, parce que j'ai fait des belles rencontres. C'est ce que je dis, j'ai fait des belles rencontres. Je suis toujours en contact avec des clients. Donc, et puis ça m'a permis de découvrir une facette que je connaissais pas. Donc, l'entrepreneuriat. Et le fait aujourd'hui d'avoir fait cette démarche me rend un petit peu plus fort derrière.
Avant d'arrêter l'épicerie, est-ce que vous avez pu écouler vos stocks?
Je fais des paniers anti-gaspillage encore aujourd'hui. Donc je vends beaucoup de produits dans des sacs à 3 euros. Donc on fait un bon mélange avec ma femme. Et sinon, j'écoule encore des stocks à moins 40% aujourd'hui.
En tout cas, félicitations d'avoir tenté le coup. Fallait oser. Ouais. Et puis bonne chance avec les trottinettes électriques.
Ouais, une nouvelle aventure.
C'est une nouvelle aventure. Et puis c'est ce que je dis, c'est une bonne petite entreprise qui est pas très vieille non plus. Et pareil, qui ne manque qu'à grandir.
Oui, il y a plein de défis et une belle histoire à écrire, évidemment. Merci de votre témoignage ce soir dans Marche au rêve. C'est toujours un plaisir de prendre des nouvelles de ceux qu'on met en avant régulièrement comme ça. Et on va le faire tout au long de cette saison. Le vainqueur.
On a un vainqueur, normalement, s'il répond bien à la question. C'est Alexis de Nîmes. Bonsoir, Alexis.
Et bonsoir à tous.
Bon, alors on répète la question quand même. Sur quel livre Joe Biden a-t-il prêté serment? La Bible, le livre de la jungle ou le dernier livre de Christophe Barbier, Christopher Barber?
Non, c'est sur la Bible.
Bravo Alexis, vous gagnez une machine à pop-corn. Vous les préférez salée ou sucrée?
Plutôt salée.
Moi aussi.
Vous êtes où, Alexis?
Ah, mais merci Cyprien, ça nous intéresse. Formidable.
Vous
êtes sur Nîmes, très bien. Merci d'avoir participé ce soir. Merci de votre fidélité. Vendredi prochain, on rejouera bien sûr. Il y aura un cadeau une nouvelle fois. Toute l'équipe reviendra et Brice Dugénier sera peut-être rentré.
Oui, mais il sera en quarantaine.
Ah, en plus,
je suis sur le chemin du retour.
Ah, il a toujours des bonnes excuses. Mais on revient vendredi prochain pour Défaire le Monde, 19h15, 20h dans un instant. Toute l'actualité.
Salut.
Salut.
Et bon popcorn, hein.